Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société. Des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Aujourd'hui, je voulais mettre un peu de lumière et aussi d'espoir sur un trouble qui touche entre 1 à 2% de la population. Ce qui n'est quand même pas rien, c'est la trichotillomanie, c'est pas facile à dire. Il s'agit d'un comportement compulsif d'arrachage de cheveux et aussi d'autres zones pileuses, comme les cils, les sourcils, qui peut apparaître après un traumatisme, mais également sans raison. Et c'est bien là toute la complexité de ce sujet. Environ 90% des adultes atteints sont des femmes. Emma a longtemps cherché des gens comme elle, pour mieux se comprendre et ne plus avoir honte. C'est en partie pour cela qu'elle a répondu présente à mon invitation. Salut Emma.
Salut.
Est-ce que ça va ?
Ouais, ça va.
Ouais. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je m'appelle Emma, ouais. J'ai 27 ans et là, en ce moment, je ne fais rien.
C'est sympa, ça.
J'ai fait une saison d'été jusqu'en septembre et là, je suis en période de creux et je vais trouver ce que j'aimerais faire après.
Ok, et tu le vis bien ?
Je le vis plutôt bien.
Super.
J'ai assez travaillé avant pour ne pas trop culpabiliser.
Ah, ça, c'est cool. C'est bien. Si tes proches devaient décrire ta personnalité en quelques mots, ils nous diraient quoi ?
Oh, waouh ! Je pense qu'ils diraient que je suis drôle.
Ouais.
Que je suis un peu maniaque.
Ok.
Je pense que je suis sympa.
Ouais.
Et assez généreuse, enfin j'espère. J'ai dit que des qualités, c'est fou.
Enfin, maniaque, tu sais, pour qui il y a des gens, c'est pas une qualité.
Non, c'est pas une qualité maniaque, c'est vrai. Mais
c'est
le
vrai
reste...
que, en fait, je me disais la même chose, je me disais, c'est marrant, à chaque fois que, enfin, quand je reçois des invités, je leur demande ça, il y a souvent beaucoup de qualités
mais
qui
ouais.
ressortent.
Ouais. Mais parce que, enfin, moi j'ai pensé aux gens que j'aime. Et
eh
du
oui.
coup,
bah oui, forcément.
Forcément.
On va pas te dire, c'est vraiment
ouais.
la pire connasse qui
c'est
existe.
C'est pas le premier truc qu'il dirait,
sûr,
je pense.
Évidemment. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi ?
J'adore être chez moi, mais j'adore être partout ailleurs. Alors c'est super dur.
Mm-hmm.
Pas trop loin. J'adore la dune du Pilat.
L'avenue du Pilat ?
La dune du Pilat.
Ah, la dune du. Je voilà. me disais l'avenue du Pilat. Je ne connais pas l'avenue du Pilat.
La dune okay. du Pilat. Et sinon, j'adore l'ouest des États-Unis.
Ok.
J'ai fait un road trip là-bas et ça m'a marqué. Et du coup, souvent, j'ai envie d'être là-bas.
C'est où ? Exactement.
Un peu partout sur la route, entre les parcs, à San Francisco, par là.
Tout le monde me parle de San Francisco, tout le monde me dit que ça a l'air chambé.
T'as déjà été ?
Non.
Ah ouais,
mais
fou,
tout le
hein.
monde, vraiment, je crois, enfin tout le monde, j'ai deux, trois potes qui ont été, qui m'ont dit que ça avait l'air incroyable.
Ouais, moi j'ai adoré, ouais. vraiment. Et tout le reste, c'est...
Ouais.
Ouais.
Ok. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Ça change en fonction des mois.
Ok. Mmh. Ah, t'es ce genre mmh, de mmh, personne.
Mmh, mmh, mmh. Je dirais que j'ai une expression par mois. Mais
d'accord.
Du coup, là, je sais pas.
Il n'y en a pas une
vraiment.
Qui te reste depuis des années ?
Non, aucune.
Ou alors, ça peut être un tic de langage, hein, tu vois, parce que moi, je dis souvent quoi en fin de phrase ? Genre, tu vois quoi ?
Ouais, bah, j'en ai plein, mais je crois que ouais. je sais pas lesquels.
Alors, ce mois-ci, c'est quoi ton expression préférée ?
Oh, il faudrait demander à mes proches, je sais pas ce que je dis là en ce moment.
Ils sont là, non, c'est pas
ouais.
vrai.
Et ils arrivent tous ensemble.
Non, là, t'en as pas qui dit.
Non,
bon, okay.
désolée.
C'est pas grave. Peut-être qu'à la
mais
fin.
Mais ça va venir, ouais.
À la fin de l'émission, je te dirai, c'est celui-là. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie, s'il y a des choses qui te passionnent ?
Eh bien, c'est ma grande question. C'est ma grande question de vie, puisque je sais pas vraiment. J'aime plusieurs trucs. J'adore le dessin. J'aime bien le tatouage. J'aime bien le graphisme. J'aime bien plein de choses, mais à petit niveau. Et pour le moment, j'ai pas trouvé un truc qui me passionne vraiment.
Et ça te pose problème ?
Oui. Ça m'a posé problème beaucoup, ouais.
Pourquoi ?
Bah, j'ai toujours aimé les gens qui ils savent ce qu'ils aiment et ils y vont.
Mmh.
Et j'ai toujours été frustrée d'aimer des choses, mais de manière à petit pourcentage. Et c'est toujours frustrant de...
Mais ça, c'est peut-être parce que tu te compares à d'autres qui, justement...
Peut-être.
Parce que moi, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que je suis pas... J'ai pas de passion, mais je suis une meuf passionnée. Tu vois, pour moi, il y a une petite nuance. C'est
ouais.
pas pour me trouver des excuses. Hein.
Non.
C'est qu'il n'y a pas un truc où je me dis, putain, ça, je veux faire que ça de ma life, ou vraiment ça, je pourrais tout donner pour ça. C'est juste, je crois qu'il y a plein de choses que j'adore, et je vais être passionnée, je vais le faire à fond. Et en fait, du coup, de voir les choses comme ça, bah, en fait, ça me pose plus du tout de problème de me dire que j'ai pas de passion. Tu vois?
Ouais, bah, c'est trop cool, mais moi, j'ai du mal à être passionnée, du coup.
Ah ouais.
J'aime bien plein de choses, mais je me sens pas passionnée de plein de choses. Et c'est ça qui, je pense, me frustre.
Ouais.
Bon.
Mais ça, après, tu vois, c'est quand même un truc.
C'est pas très grave.
Aussi. Non, c'est pas grave, mais c'est chiant. Enfin, c'est pas grave. Ça dépend des échelles et tout, hein, mais. Je comprends. Je vais te poser une question que je pose parfois dans certains épisodes, mais plutôt à la fin, parce que je trouve que c'est important de le faire maintenant, en direct. Pourquoi tu as souhaité t'exprimer à ce sujet-là ?
J'ai souhaité m'exprimer parce que moi, je ne trouvais pas grand monde qui s'exprimait là-dessus. Alors aujourd'hui, je me suis moins renseignée, mais à l'époque, en tout cas, même si on parlait beaucoup moins de santé mentale et tout ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver des gens comme moi. Mmh. J'ai dû trouver... 4 articles qui disaient la même chose, qui étaient un peu déprimants. Un reportage avec une fille à moitié chauve qui donnait zéro espoir.
Mmh.
Et je trouve ça super important. C'est des sujets... Enfin, en fait, 1 à 2% de la population, c'est énorme. Mmh. Et du coup, pour moi-même, je trouve ça cool. Et pour tous les autres, et toutes les autres, parce qu'il y a plus de femmes qui peuvent tomber là-dessus, je trouve ça super important d'en parler.
J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, visiblement aussi sur le Google Form. Beaucoup de nanas qui me disaient « j'ai envie d'être là, il faut qu'on en parle », etc. Donc je pense qu'en effet, c'est beaucoup plus que ce qu'on le pense.
Ouais.
Et c'est peut-être même plus que 1%, tu vois.
Ouais.
Peut-être que 1 ou 2%. Justement, vers quel âge sont apparus les premiers « symptômes » entre guillemets pour toi ?
Alors moi, c'est très flou le début. Je me souviens pas m'arracher un cheveu, alors que c'est hyper bizarre comme comportement. Donc je me dis « j'aurais pu m'en souvenir ». Mais je pense que c'est vers mes 11-12 ans.
D'accord. Ouais, donc tôt.
Ouais. Ouais, ouais, assez tôt. Ouais, ouais, très tôt. Mais toute cette période de ma vie, elle est floue. Du coup, j'ai pas de... C'est vraiment entre 10 et 12 ans, je dirais.
Oui, t'as pas de temporalité.
Non.
Ok. Et donc, tu te rappelles, en tout cas, qu'à cette période, c'est quoi tes premiers souvenirs de ça ?
Je m'en souviens que je commence à me demander pourquoi je fais ça, et que je trouve ça bizarre, et surtout que quand j'ai commencé à les arracher, à arracher mes cheveux, j'ai tout de suite commencé à les manger. Parce que moi, j'ai fait de la trichotillophagie.
Oui, alors c'est ça. C'est qu'il y a de la trichotillomanie,
ouais.
Où en fait, ça va être juste, entre guillemets, arraché.
C'est ça.
Regarder le bulbe, le toucher.
Il y en a qui les brûlent.
Qui les brûlent. Et il y en a qui les mangent. Juste qui les mâchouillent aussi. Hein.
Y en a, ouais, qui les mâchouillent. Et il y en a qui les mangent. Et
ouais.
Ça se décide pas.
Ouais.
Et du coup, j'ai commencé directement à les manger. Et je pense que c'est ça qui m'a plus alarmée, parce que je me suis dit, je suis en train de manger mes cheveux.
Tu les avalais ?
Ouais, complètement. Ouais. Vraiment. Et là, je me suis dit, ah, il y a quelque chose de bizarre. Mais. Je pense que je le prenais pas trop en compte. Je me suis dit, un petit peu bizarre de faire ça, mais allons-y.
Oui, mais quand tu as commencé à le faire, tu t'es pas dit, c'est chelou ou c'est bizarre ou c'est un geste qui est nouveau.
Mais j'ai l'impression que ça arrivait progressivement. Et comme cette période de ma vie, elle est floue, j'ai pas trop de... Je me souviens pas vraiment de ça. J'ai pas trop de souvenirs de... Ouais, du moment où vraiment je me dis, oh bah, j'ai jamais fait ça avant.
Mmh. Et pourquoi cette période de ta vie, elle est floue ?
Alors, cette période de ma vie, elle est hyper floue parce qu'en même temps, il s'est passé un événement... pas hyper cool, je me suis fait violer par mon père. Et,
Okay.
Tout s'est un peu mélangé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pas si, et je le saurai jamais puisque c'est trop flou, si la trichotillomanie est venue après le viol, ou si elle était déjà là, s'il y a une raison, si c'est la réponse à un trauma ou pas du tout, en fait.
Okay.
Et du coup, je pense que ça a biaisé tous mes souvenirs de cette période.
Et oui,
et du coup, c'est super flou.
Ouais, ouais. Et le viol a été, quoi, à 11 ans, quelque chose comme ça ?
Même pareil, ça, c'est super flou, mais oui, entre mes 11-12 ans, je dirais.
Ok, d'accord. Comment, justement, comment ça se manifeste un peu, dans ton cas, j'allais dire, tout de suite, tu te mets à manger tes cheveux, ou alors c'est, tiens, il y a un truc... C'est quoi, en fait, la réflexion, à ce moment-là, si t'arrives à la voir un peu avec du recul, tu vois ?
Je trouve que ce qui est un peu particulier, c'est que ça vient de tout. C'est-à-dire que ça peut être juste... au début, on se tripote les cheveux, on les arrache et on les mange. Mais moi, après, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais ça devient un automatisme, une réponse au stress
ouais.
et un peu tout. Et du coup, ça couvre 99% de la journée, finalement. Donc,
Mais est-ce que ce serait pas un peu comme la clope ?
Si, mais moi je le vois un peu pareil. Et enfin, oui, c'est un peu.
Enfin, c'est une croyance parce que bon, moi j'ai arrêté de fumer, ça fait 2 mois.
Oui, bravo.
Et en fait, j'ai réalisé que j'avais une croyance autour de la cigarette très forte. Je dis pas qu'un jour j'y retomberai pas, mais en tout cas, j'ai longtemps cru que je fumais parce que ça venait répondre à un besoin de oh, « je suis angoissée, j'ai besoin de fumer, oh, je viens de faire l'amour, j'ai besoin de fumer, je viens de tout ranger, donc j'ai besoin d'avoir une récompense ». Donc il y avait toujours une raison pour aller fumer, tu vois. Et donc, en effet, ça faisait partie de 90% de ma journée. Est-ce que toi, il n'y avait pas un peu un truc comme ça de
si. «
putain, j'ai appris une mauvaise nouvelle, hop, ou il y a eu un truc trop
c'est
cool ».
C'est exactement ça. C'est « je suis stressée, ok, ça arrive, je m'ennuie ». Ça arrive. Réflexe automatique devant la télé, ça arrive. Conversation qui me plaît pas tant, ça arrive. Du coup, ça couvre tout, comme la clope, ouais, je pense.
Ouais. Est-ce que tu arrives à te souvenir ? Parce que tu l'as fait pendant combien de temps ?
Je pense environ une dizaine d'années, je dirais, entre 10 et 12 ans.
Ok, oui, donc finalement, tu as quand même pas mal de recul sur tout ça. Est-ce que tu arrives à nous dire un peu ce que tu ressentais, ce que tu éprouvais, ce que ça te faisait quand tu le faisais ?
Ouais, alors les premiers sentiments, c'est vraiment la honte. Parce que les manger, c'est hyper bizarre. Et au début, j'arrachais vraiment des poignées. Vraiment, c'était pas un cheveu, c'était... J'arrachais vraiment des poignées. Et
à un endroit particulier ?
Ça pouvait être un peu partout, mais c'était surtout sur le dessus.
Le dessus du crâne, quoi.
Et j'arrachais vraiment des poignées et je mangeais les poignées. Donc j'avais vraiment des boules de cheveux dans la bouche. Et du coup, j'ai eu honte hyper vite parce que ça se voyait. Je m'en souviens que tout début du collège, j'avais vraiment des boules de cheveux dans la bouche. Et souvent, mes amis me demandaient « Ah, t'as des chewing-gums ?» J'avais pas du tout de chewing-gum.
Est-ce que tu le faisais en cours ?
Ah bah, tout le temps.
Ok,
ouais, vraiment.
C'était pas un moment où t'allais dans les toilettes ou
Non. Okay. Comme c'est 90% de la journée, c'était vraiment... Voilà. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment honte. Et d'ailleurs, je pense que même mes amis de cette époque-là, que je vois plus du tout, ne connaissent pas du tout. Je l'ai caché vraiment.
Mais comment t'arrivais à le cacher si tu le faisais aussi en cours ?
Ben, en fait, les gens font pas trop attention aux gens, j'ai l'impression. Parce que j'avais tout le temps ma main dans les cheveux, mais en fait, finalement, en plus à cet âge-là, personne regarde vraiment personne, je crois. Mmh. Et quand j'avais des cheveux dans la bouche, je faisais passer ça pour autre chose. Ou alors, j'enlevais discrètement, je me mettais dans les poches arrière de mes pantalons. Je me retrouvais avec des boules de cheveux dans les poches arrière de mes pantalons énormes. Du coup, ça se voyait pas. Et j'ai commencé à avoir des trous à cette époque.
Oui, alors à partir de quel âge t'as commencé à avoir...
Je pense 13 ans.
Donc quoi, ça aurait mis 1 ou 2 ans à s'installer avant qu'il y ait des trous.
C'est ça.
Et comment ça se fait qu'il y a des trous ? C'est parce qu'à force d'arracher, ça repousse plus ?
Ouais, je crois que c'est ça. Et je crois aussi qu'on arrache... moi, j'arrachais toujours aux mêmes endroits. Mmh. Et du coup, ça peut jamais repousser.
Ok.
Donc,
Peut ne jamais repousser.
Je crois que ça peut ne jamais repousser.
Okay.
Mais sur une période donnée, en tout cas, ça repousse pas. Et du coup, j'ai commencé, comme je les arrachais ici, ça faisait vraiment des... Enfin, en haut de la tête, ça faisait vraiment des trous. Et j'ai de la chance, j'ai quand même beaucoup de cheveux. Donc, pareil, je pouvais le cacher. Mais c'est là où je me suis dit... je pense que j'ai compris l'ampleur du problème aussi. Quand ça devient physique et que ça se voit...
Donc vers 13 ans.
Ouais, vers 13 ans, je pense.
Ok. Donc à ce moment-là, t'es au collège et t'arrives à le cacher un peu à tes camarades, vu quand même, en même temps, tu dis qu'ils te regardent pas trop. Que
ouais, je le cache complètement.
Tu le caches complètement et en même temps, pas du tout, parce que tu le fais aussi en classe.
Oui, oui c'est ça.
Là où il y a le paradoxe. Est-ce que tu commences à développer un peu des petites stratégies, des petits trucs pour que ça se voit un peu moins, pour que... Parce que là, tu dis que tu les mets dans tes poches arrière. Est-ce que tu te rappelles de stratégies, en effet, pour que ça se voit pas et que t'arrives à le faire quand tu veux ?
Alors. Les arracher, j'ai aucune stratégie. Je le fais et personne ne le voit.
Okay.
Les manger, effectivement, quand je vois qu'on me regarde bizarre ou qu'on me demande ce que j'ai dans la bouche, je les cache dans ma poche arrière parce que je ne peux pas l'avaler tellement c'est gros, en fait. Et après, quand j'ai commencé à avoir des trous sur le dessus de la tête, j'ai commencé à les arracher sur des endroits stratégiques, des endroits qui ne se voyaient pas derrière les oreilles, dans la nuque, des endroits où je savais que si j'avais des trous, personne ne pouvait le voir.
D'accord, ok. J'ai quelques petites questions. Ça te dérange pas si j'y vais frontalement
Oui, vas-y.
Okay. T'as mal ? Ça te fait mal ?
Non.
Ça ne te faisait pas mal quand
zéro
t'arrachais
douleur.
Parce que toi, tu dis que c'était pas cheveux par cheveux, c'était des touffes, quoi.
Ouais, exactement. Tout au début, c'était des touffes.
Et
zéro douleur.
Mal.
Zéro douleur.
Mais ça, c'est incroyable, quand même.
Ouais. Mais je pense que... Alors, bon, j'étais bloquée sur mes émotions, j'étais bloquée sur tout ça, mes ressentis, donc je pense que c'est lié. Mais je me sens pas... Non. Zéro
c'était
douleur.
Pas un truc de « Ah putain, j'ai mal, mais je kiffe en même temps
». Non, vraiment pas.
Ok. Est-ce que quand tu les mâchouilles, tu ressens une certaine forme de plaisir ?
Ah oui, complètement.
Et pourquoi tu les manges d'ailleurs ?
Et je sais pas. Ça, c'est vraiment... je pense que je les ai jamais arrachés sans les manger. C'est venu tout de suite et je n'ai pas de raison, quoi. Et je suis vraiment comme tout le monde. C'est-à-dire que si je trouve un cheveu dans un plat, ça me dégoûte. Donc,
oui, d'accord.
C'est pas... Okay. Je prends pas du plaisir si je vais au restaurant avec un cheveu. C'est vraiment, c'est hyper paradoxal.
Et tu t'es pas dit, je vais juste les mâchouiller et je vais les recracher. C'était pour toi le moment d'avaler le cheveu, c'était obligatoire, quoi.
Ouais, complètement.
Enfin, c'était normal, en fait.
C'était pas du tout réfléchi, en plus, à cette époque-là. Donc, ouais, vraiment. C'était complètement normal.
Est-ce que t'en parles à ta mère, à ta famille, à des gens autour de toi, à des gens qui voient
Alors, très jeune, non, j'en parle pas. C'est quand j'ai commencé à avoir des trous que ma mère l'a vu. Mais je crois que ça a alarmé personne. Elle m'a juste dit « Oh, mais non, mais arrête de faire ça. » Mais je crois que personne prenait ça vraiment au sérieux. C'était...
C'est passager, ouais. C'est l'adolescence, elle se cherche.
Oui, c'est ça.
Ok, elle a des trous dans les cheveux, c'est l'adolescence. Voilà. La réflexion très bizarre.
Ça reste les cheveux, les manges, bon, voilà.
Voilà, écoute, chacun ses trucs, il y en a qui sont anarchistes. Bon, elle mange ses cheveux, voilà, c'est comme ça. Mais ok. Mais donc ça, tu dis que t'as commencé à avoir des trous vers 13 ans. Quand t'as eu ce trou en haut, une genre de petite calvitie pour les mecs?
Ouais.
À ce niveau-là, c'est juste pour donner l'image aux gens.
Ouais.
Hein.
Non, alors ça, c'est pas vraiment comme une calvitie, c'était plus parce que je les arrachais un peu plus près de mon front, donc c'était plus vers le milieu du crâne en haut, quoi.
Comment tu fais pour cacher ça, si tu le caches?
Eh ben, j'ai beaucoup de cheveux, donc je les mets du bon côté.
C'est vrai que t'as beaucoup de cheveux.
Oui, et puis finalement, comme je développe la stratégie de les arracher ailleurs, ça finit par repousser, et j'ai pas des trous longtemps.
Ok, ça te fait chier d'ailleurs d'avoir un trou, parce que est-ce que tu dis « merde, j'ai plus accès à mon espace ?»
Non, parce que c'était pas le seul espace. Je les arrachais un peu partout. Il se trouve que ça a fait un trou ici.
Je croyais que tu le faisais que ici.
Ça a fait un trou ici, mais je les arrachais déjà un peu partout.
D'accord.
Et du coup...
C'était que tes cheveux ?
À cette époque, ouais, c'était que mes cheveux, je crois.
À cette époque, ok. D'accord.
Ça tease.
Ok. Donc, après, tu commences à avoir des trous un peu partout. Elle commence à s'en rendre compte un petit peu, ta maman, au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que tu essayes d'arrêter ? Est-ce qu'il y a un truc que...
Alors, je crois que je prends conscience, surtout, que je suis en train de faire ça.
Donc, vers 13-14
ans ? Ouais, vers 13-14 ans, je me dis, ok, bon, je m'arrache les cheveux, je les mange. Et je... Ouais, en pleine conscience de ça existe. Mais je me pose même pas la question d'arrêter parce que je pense que c'est pas possible. J'y arrive pas.
Ouais.
Ça fait partie de moi, c'est un automatisme, c'est tout. Et du coup, non, zéro raison. Non. Et personne me... en tout cas, à l'époque, personne me pousse à arrêter vraiment... À part ma mère qui me dit 2-3 fois « Non mais vraiment arrête » ou quand elle me voit la main dans les cheveux, elle me dit « Non mais enlève ». Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Ouais.
Pour l'instant, quoi.
Ouais.
On va faire une petite parenthèse qui s'appelle « Donne ta langue aux cats », parce que je m'appelle Juliette Katz.
Je sais.
Mégalo. Lego, machin, tout ça. Non, je rigole. Devant toi, tu as des cartes sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je t'invite à choisir une émotion et ensuite tu vas piocher ce tas. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Donc, est-ce qu'il y a un petit tas qui t'attire ?
Je vais aller vers le dégoût.
Ok.
Parce que je crois qu'à cette époque-là, là, on était un peu dedans.
D'accord.
De moi-même.
Et donc, je t'invite à prendre le petit tas et de prendre une carte au hasard et de nous décrire ce qu'il y a écrit et le petit bonhomme.
Alors, c'est noté molle ou
molle ?
Ouais. Ok. Avec un petit bonhomme qui est mou, du coup, un peu dans le bleu et qui a l'air d'ailleurs mou et triste.
Ok. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ça m'évoque, je sais pas vraiment si ça fait écho parce que je crois que. Je sais pas si je me sentais molle à cette époque en tout cas. Après, le bonhomme a l'air très triste et je pense que je l'étais, dans le fond, très triste. Mais j'étais tellement bloquée sur mes émotions, moi, que je ressentais tout à 1%. Et du coup, cette tristesse, je crois que je la ressentais même pas.
Tu occultais un peu.
Ouais, et ce petit bonhomme-là, j'ai jamais vraiment été aussi triste, à cette époque en tout cas.
Voilà. T'as jamais été aussi triste qu'à cette époque ?
Non, j'ai jamais été aussi triste à cette époque. Maintenant, je peux être triste.
D'accord,
mais
okay. D'accord,
à l'époque, je pouvais pas être triste.
Okay. Très bien. Donc, en grandissant, tu commences à te sentir un peu mieux avec toi-même et t'en parles progressivement autour de toi, à tes amis, etc. Pourquoi tu commences à en parler et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Je crois que quand je grandis, je prends conscience que ça fait partie de moi. Et en plus, effectivement, je me sens un peu plus à l'aise avec moi-même, avec mon corps. Et du coup, je commence à moins le cacher. Parce que je veux sortir de cette honte, en fait, qui est hyper, vraiment hyper dure à vivre. Et du coup, je me dis que si j'en parle, moi, de manière décomplexée, et qu'en fait, je le dis aux gens à qui je me présente, mes amis de l'époque, eh ben, ça enlève la honte. Et du coup, ça m'aide. Et du coup, je commence à en parler autour de moi pour ça, en fait.
Mais ça enlève la honte, mais c'était pas forcément un désir d'arrêter le geste.
Non, alors à cette époque, je commence à avoir envie quand même. Ça, en fait, j'en ai toujours eu vraiment un peu envie. Mais je commence à me dire qu'il va falloir que je bosse là-dessus.
Oui, enfin, J'imagine, c'est pour ça que je refais le parallèle à la cigarette. Et tu me dis si je me gourre total, hein, mais c'est comme quand tu fumes, tu sais que c'est de la merde, tu sais qu'il faudrait arrêter, mais en fait, ça te parvient pas du tout.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, toi, tu le dis que t'avais même pas envie d'arrêter.
Pas du tout.
Voilà.
Et puis, si, tu vois, mais enfin, t'y es pas, quoi.
Oui, voilà. Bah, c'est un peu ça.
Ouais.
C'est...
Et comment tes amis réagissent à ce moment-là?
Comme je le présente d'une manière décomplexée, tout le monde l'assimile de manière normale.
Mmh. Tu le présentes comment?
Bah, j'ai commencé à dire à tout le monde « Ah bah oui, moi je m'arrache les cheveux, hyper bizarre, c'est un trouble, je me suis renseignée, ça s'appelle la trichotillomanie. » Et voilà, au début je dis juste que je les arrache parce que je crois que j'ai encore un peu plus honte de les manger.
Mmh.
Et puis au fur et à mesure du temps, je dis « Bah je les mange aussi. » Et puis c'est comme ça. Et je suis à l'aise avec moi-même et j'en avais fait un peu une fatalité.
Mmh.
Et du coup, bah, tout le monde me dit « Oh, bizarre, ok. »
Ok, mais il n'y a pas des gens qui soit ont un dégoût, justement, en lien avec la carte, soit des gens qui se questionnent, qui ont peur pour toi.
Et bah pas tant à cette époque.
Okay.
Personne vraiment, non.
Ça t'a manqué?
Je crois que oui.
Ouais.
Je crois que j'aurais aimé que quelqu'un, mais je peux en vouloir à personne, mais je crois que j'aurais aimé que quelqu'un me dise « on va faire un peu mieux que ça et on va y travailler
». Ah ouais, ok. Ouais, ouais, c'est normal. Malgré tout, à partir de cette période, tu vas essayer de te renseigner, de mettre des choses en place. Qu'est-ce que tu as fait exactement?
Alors, j'ai essayé plusieurs techniques. Je pense que c'était à peu près à l'époque du lycée. Et je me suis dit, par moi-même, allez, on y va. Du coup, j'ai eu plusieurs choses. Alors déjà, j'ai acheté des livres qui parlaient de ça. Alors, je me suis dit que ça pouvait peut-être m'aider ou faire un déclic. Ça n'a pas du tout marché. J'ai eu beaucoup de carnets dans lesquels je faisais des symboles. J'ai eu un premier carnet dans lequel je faisais des bâtons à chaque fois que je m'arrachais un cheveu.
Okay.
Et je me suis dit, bah, à la fin de la journée, je vais me rendre compte de l'ampleur. Et du coup, ça va me permettre de me rendre compte et de... Voilà, ça n'a pas marché.
Et est-ce qu'à la fin de la journée, ton carnet était rempli?
Oui, complètement. Okay. Je ne sais pas combien je m'en arrachais, mais c'était...
Okay.
Ça se comptait par centaines, je pense. C'est vraiment
énorme. Mais en tout cas, tu étais dans le constat à dire « Waouh, c'est beaucoup ».
Oui, mais ça ne changeait rien.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, j'ai eu un autre carnet dans lequel j'avais des symboles parce que j'essayais de toucher mes cheveux sans les arracher. Donc, j'avais un symbole pour « J'ai touché mon cheveu, mais je ne l'ai pas arraché ». J'avais un...
Ah oui.
Mais en fait, c'était beaucoup plus complexe. Ça m'apportait une charge énorme et ça n'a pas du tout fonctionné.
Ouais.
J'ai acheté à l'époque des poids de poignet pour faire du sport à la base.
Ah et oui,
okay. Ouais, voilà. Parce que je me suis dit, si je prends conscience que je lève la main et que je l'amène à mes cheveux, et bah, ça va me permettre d'arrêter le geste. Et bon, ça a marché pour deux coups. Puis après, j'avais juste conscience que j'avais des poids au poignet et puis
oui,
ça ne changeait rien.
Ouais, ouais.
Donc voilà.
Okay.
J'ai essayé de me renseigner aussi à cette époque. Du coup, c'est là où je suis tombée sur les seules vidéos que j'ai trouvées sur Internet.
À quelle période?
Je pense que j'ai 15-16 ans.
Ok. Ouais, rentrée au lycée, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais.
Et en fait, je ne trouve pas grand-chose de satisfaisant. Et en plus, ça me met en désespoir complet parce que tout ce que je trouve, c'est que des choses qui disent que c'est à vie. Que des gens qui s'en sortent jamais, qui ont 40 ans et qui sont encore dedans. Et du coup, je me dis, bon, bah...
Donc toi aussi, t'es fataliste et tu dis, merde, en fait,
Et j'essaye en même temps, mais en même temps, c'est très paradoxal d'essayer en même temps de lire que des gens qui s'en sortent pas.
Mais t'essayes et en même temps, est-ce que tu sens que t'as envie d'arrêter ou alors...
Oui, à cette époque, je commence à en avoir vraiment envie.
Mais il n'y a pas le... Moi, j'y crois pas trop à ça. Parce que, en fait, je reprends le truc de la cigarette. Hein.
Ouais.
Mais je pense que vraiment, quand. Alors, tout n'est pas une histoire de volonté, évidemment. Je suis convaincue que ce n'est pas qu'une histoire de volonté. Sinon, il n'y aurait, aurait pas de gros, par exemple. Enfin, genre, moi, je ne serais pas grosse, tu vois. C'était toute une histoire de volonté. Mais je pense que quand tu es décidé de quelque chose réellement, profondément, tu vois, il y a un truc qui se met en marche, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Mais je crois qu'on peut avoir l'illusion d'avoir la volonté. Et c'est ça qui...
Et oui, tout à fait.
Voilà. Et je pense qu'à cette époque, j'avais l'illusion d'avoir la volonté. Mais pas du tout assez de clés, pas du tout assez de recul.
Et puis t'es solo, quoi.
Oui, et je suis solo, clairement.
Ça, c'est hyper dur quand même, parce qu'en effet, les seuls récits que tu vois, c'est « Vous êtes dans la merde, allez, bisous
!» C'est ça.
Ouais.
Okay. Et je suis seule là-dedans. Et comme je l'ai banalisé, bah, tout le monde l'a banalisé, donc
Et ta mère, à ce moment-là, donc ça fait 2-3 ans, là, enfin un peu plus maintenant, mais comment ça se passe avec ta mère à ce moment-là?
On n'en parle pas.
Ok.
Voilà.
Elle est toujours pareille de « arrête avec tes cheveux
» Pas tant. C'est un peu passé. Et comme je m'arrache plus des touffes, mais des cheveux maintenant, c'est un cheveu par un cheveu. Bah ouais, je crois qu'on n'en parle plus.
T'étais fière de ça, de passer d'arracher une touffe à un cheveu par cheveu?
Ouais, ouais. C'était déjà bien.
Ouais, bah oui.
Franchement, ouais.
Et tu les mangeais?
Oui.
Okay.
Ça n'a pas changé, ouais.
Et du coup, en octobre 2020, il y a un début de prise de conscience qui va s'opérer grâce à ta petite amie.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là?
En fait, à ce moment-là, je suis en couple avec elle. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble.
Ouais.
Elle connaît toute ma vie, elle connaît mes traumas, elle connaît, je lui ai jamais rien caché. Et ça fait déjà 2 ans qu'elle me dit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas normales et que bah, peut-être que je pourrais travailler là-dessus un peu plus profondément, que ça soit sur le viol. Du coup, parce que je pense que tout est lié sur mes émotions, sur le futur, sur bah, les cheveux. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'elle me pousse à aller voir quelqu'un, à aller voir un psy, où je dis non, parce que moi, ça me fait peur et que...
Qu'est-ce qui te fait peur ?
Bah, en fait, je crois que j'ai toujours été solo dans mon truc.
Et ouais.
Et du coup, le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, c'est super bizarre. Et c'est aussi une démarche de travail sur soi. Et je pense que je fais un blocage complet et tout me fait peur. Mais je me dis, elle est pas bête. Et du coup, je finis par l'écouter et à prendre rendez-vous chez quelqu'un, en fait.
Mais donc, ça, c'est ce qui se passe en 2020. Mais en fait, ça fait déjà depuis 2 ans qu'elle te... C'est
oui.
ça, hein
ouais.
C'est depuis 2018, en gros, qu'elle te dit, faudrait que... Enfin, faudrait.
C'est clairement un travail de 2 ans, ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais,
elle m'a un peu travaillé au corps.
Elle t'a travaillé au corps. Et comment elle le vit, elle, au quotidien, justement, qui est, elle, dans ton intimité
Bah, elle, je crois qu'elle essaye... Bah, justement, elle est au quotidien avec moi, on habite ensemble. Donc, elle me dit... quand j'ai la main dans les cheveux, elle me dit « arrête ». Elle me dit « t'as un cheveu dans la bouche, enlève-le ». Mais je pense qu'elle voit qu'elle est impuissante et que c'est beaucoup plus profond que ça.
Mmh.
Et du coup, je pense qu'elle est frustrée et qu'elle essaye vraiment de faire au mieux. On a beaucoup de discussions. Elle est frustrée, mais elle essaye de faire au mieux, ouais.
Je peux te poser une question un peu chelou.
Ouais.
Est-ce que t'as déjà eu envie de le faire sur d'autres personnes ?
Non, jamais d'autres personnes. Ça me dégoûte même un peu.
Ok. Il y a pas des cheveux où tu te dis oh putain eux ils doivent être. Je sais pas tu vois.
Si je crois que j'ai pu me dire ça. Surtout que j'ai toujours arraché à part au début quand j'arrachais des touffes, j'ai toujours arraché un style de cheveux en particulier.
Ok.
Je recherche un peu. Enfin, je sais pas si tout le monde fait vraiment comme ça, mais je recherche un peu le cheveu qui va avoir une texture particulière.
Et c'est quoi alors le cheveu parfait
Ben, c'est celui qui a des aspérités, qui est pas lisse en fait.
Ah oui.
Et du coup, je pense que j'ai pu me dire en voyant des cheveux crépus. Heureusement que j'ai pas des cheveux crépus parce que je les aurais tous arrachés d'un coup.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, mais sur d'autres gens, non, ça me dégoûte un peu, ouais, je crois.
Ok. Podcast. Donc tu te décides d'aller voir un psy, mais tu te fais hyper violence,
ouais.
Du coup, pour t'y rendre.
Méga violence. Vraiment, je prends rendez-vous parce que je me dis que c'est utile, mais je pleure quand je prends rendez-vous.
Et tu t'es dit, je vais aller voir un mec ?
Non, c'était une femme.
D'accord,
ouais,
ok.
Une psy, ouais. Ouais, ouais.
Et alors ?
Premier rendez-vous, je fais un nombre incalculable d'actes manqués pour louper le rendez-vous.
Bien sûr.
On fait la cuisine juste avant et ça cuit pas. Et du coup, je dis à ma copine, ah, ça sera jamais cuit, je pourrai jamais aller à mon rendez-vous.
Bah, bien sûr, évidemment.
Voilà. Et je finis en pleurs. Et en fait, c'est elle qui me commande un taxi pour y aller. Et en me disant, c'est pas du tout pour te brusquer. Mais en fait, là, il faut que t'ailles au bout. On est vraiment à 30 minutes du rendez-vous. Donc voilà. Mmh. Et j'y vais. Et en fait, je pense que j'ai dû y aller entre 4 et 6 fois, ce qui est okay. pas énorme.
Ouais.
Mais je pense que la démarche de y aller m'a aidée.
Mmh.
Et le fait, bah, en fait, finalement, de poser les mots avec quelqu'un d'autre que mes amis qui ont le même âge que moi, quelqu'un, en fait, c'est son métier. C'est un peu fou. Et du coup, elle m'a dit plein de trucs qui m'ont servi à démêler un peu tout ça, quoi.
Mais du coup, ça, c'est quoi l'impact que ça a sur toi ?
En gros, elle m'a dit que ce que je faisais, c'était un peu une volonté de se faire mal. Que ça me faisait pas mal en soi, mais que c'était une volonté de se faire mal. Et c'est un peu comme de la scarification, en fait. Une des premières questions qu'elle m'a posée d'ailleurs, c'est « Raconte-moi la dernière fois où t'as été super triste. » Et je lui dis « Oh, je sais pas. » Elle me dit « Raconte-moi la dernière fois où t'as été super énervée. » Je lui dis « Oh là là, je me souviens pas. » Et elle me pose plein d'émotions comme ça, et j'ai aucun moment qui me vient. Et elle me dit « Ça, c'est pas normal. » Elle me dit « Normalement, quand je pose cette question aux gens, ils sont capables de me répondre. » Elle me dit « Toi, t'es bloquée sur tes émotions, t'es sur un fil, et du coup, le fait de t'arracher les cheveux, c'est pour ressentir quelque chose.
»
Et là, t'as bloqué tes émotions, bah, en fait, depuis ton viol, parce que bah, en fait, c'est trop dur et que le cerveau il est capable de se protéger comme ça. Et du coup, il va falloir que tu débloques ça pour avancer. Et c'est comme ça qu'il y a des nœuds qui vont se démêler et que peut-être que les cheveux, tu vas réussir à arrêter. Et en fait, personne ne m'avait jamais exposé les choses comme ça. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'en fait, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'étais triste ou énervée.
C'est vrai que ça paraît... c'est marrant que tu utilises des mots qui sont très proches du cheveu, je trouve, en plus. Des nœuds qui sont
oui,
difficiles à démêler, le fil, le machin.
Très belle métaphore filée.
Ça paraît hyper logique, ce qu'elle dit.
Oui.
Ça paraît très logique. Et tu t'es jamais dit, à un moment, je cherche à me faire du mal.
Jamais.
C'est jamais venu, ça t'est jamais apparu, quoi.
Jamais. Comme j'avais pas d'émotion et qu'en plus... À cette époque aussi, j'avais complètement banalisé, moi, mon viol, comme les cheveux. J'avais tout banalisé, en fait. C'était normal et c'était comme ça, c'était intégré. Il a fallu tout redéconstruire.
Quand tu dis c'était normal, c'est parce que... Est-ce que c'était ta manière Enfin, tu vas me dire, oui, évidemment. C'était ta manière à toi de rendre la chose moins grave et donc d'être moins sensible. Mais est-ce que c'est aussi parce que la société te dit que, bah, en fait, c'est des choses qui arrivent tout le temps ?
Je crois que c'était plus par rapport à moi-même. Ouais, question de me protéger et question de me dire, bah, si je me dis que c'est banal dans ma tête, bah, c'est plus simple d'avancer depuis des années. Alors que, au niveau société, par exemple, quand j'avais des histoires d'amis à qui il arrivait des choses comme ça, j'étais révoltée. Mais pour moi-même, pas du tout.
Ouais.
J'avais un peu des excuses sur tout et je trouvais ça presque normal.
Le viol, t'as trouvé ça presque normal bah, en fait, pendant un temps en
ouais,
tout cas,
voilà, exactement. Je l'avais, oui, ça, je l'avais complètement intégré. Ouais. Et j'ai toujours, bah, je voyais mon père, enfin, s'envoyer
oui,
des messages.
Oui, je voulais te poser la question.
J'ai continué à le voir pendant vraiment énormément d'années. Et c'est d'ailleurs ma copine qui m'a dit, une des premières fois où on a parlé de mariage pour rigoler, je lui ai dit, il y aura ma mère, mon père. Et elle m'a dit, si on se marie un jour, il n'y aura jamais ton père. Et je lui ai dit, waouh, c'est super méchant. Et elle me dit, je suis désolée. Elle me dit, vraiment, il sera pas là. Et ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, bah, franchement, elle n'est pas sympa. Parce que moi, si je veux qu'il soit là, il sera là. Et après, je me suis dit, bah, en fait, je ne sors pas avec la plus bête des filles. Et si elle dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir un peu plus profondément. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est pas juste quelqu'un qui a fauté. C'est pas juste, c'est un violeur. Et c'est là où tout a commencé à se démêler par rapport à ça.
Ça, c'était il y a combien de temps ?
Ça, c'était, je dirais, au début de notre relation, donc 2018-2019. Tout le travail, en fait, entre 2018 et 2020.
Juste, je voulais revenir sur un truc, parce que tu sais, tu disais que mes émotions étaient bloquées, etc. Avec ta copine, est-ce que t'étais amoureuse ?
Ouais.
Tu ressentais de l'amour ?
Ouais.
Donc t'arrivais à ressentir
oui.
ça ?
Ah mais oui, je ressentais des choses et j'ai eu même des relations avant elle et j'ai été vraiment amoureuse sincèrement. Je pense, l'amour c'était moins un problème bizarrement, mais je pense quand même que je ressentais les choses peut-être à 2% de ce qui était possible.
Et oui, et peut-être que tout ce qui était de l'ordre de la tristesse, de la colère, etc., c'était quelque chose qui était vulnérable.
Oui,
donc
peut-être plus
faille,
dur à ressentir.
Donc ouais. Un échec, entre guillemets, je grossis le trait un petit peu.
Ouais.
Donc ça se rapprochait peut-être un petit peu aussi de ce qui a pu se passer avec ton père, tu vois,
ouais.
de se montrer vulnérable.
Exactement.
Enfin, je fais des raccourcis oui. De ouf, hein, mais ok. Et donc, quand tu dis qu'il y a des choses qui ont commencé à se démêler, tu vois, démêler.
Ouais, ça marche aussi. Hein.
Tu vois, ça marche. Hein. Quand tu dis qu'il y a des choses qui se sont démêlées à partir de ta relation avec ta copine, que tu commences à comprendre des choses par rapport à ton père, etc. Est-ce que tu as essayé de te confronter à ton père aussi ?
Non, c'est sur ma grande to-do list de vie.
Okay.
Ça arrivera un jour. Mais non, pas pour le moment. J'ai pas réussi. Par contre, j'ai coupé contact, complètement contact.
Tu as réussi à en parler avec lui, de lui dire de...
Non, jamais. Après, on n'avait pas une super relation. Hein.
Okay.
C'était plutôt éloigné, c'était plutôt copain.
Ouais.
Copain. J'ai complètement coupé contact et je ne l'ai plus jamais revu depuis... Bah, du coup, ça fait des années que je ne l'ai pas vu et que je...
Ça fait combien de temps, là ?
Je pense que ça fait bien 5 ans.
Donc, depuis 2018 ?
Voilà, exactement.
Ok, d'accord. Donc, tu commences à comprendre des choses. Quand tu vois cette psy 4 à 6 fois, il y a des choses où tu réalises qu'il y a des blocages en toi. Qu'est-ce que tu en fais de ça ?
Qu'est-ce que j'en fais en
dans le sens, quand je te dis qu'est-ce que t'en fais, c'est que peut-être il y a des choses, tu vas dire « Ah putain, c'est ça !» Donc tu vas comprendre des choses, mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux mettre en place ? Est-ce qu'il y a des choses où tu veux te confronter ? Je sais pas, tu vois, je pose toutes les
Alors,
questions.
Je crois que je sors pas des rendez-vous en me disant « Ah, je vais mettre des choses en place ». Je pense que ça se passe dans ma tête par contre et que ça se met en place tout seul. Le fait de plus communiquer avec mon père, le fait de vraiment, pour le coup, de développer une vraie volonté, je pense, d'arrêter de m'arracher les cheveux aussi, et de me dire que je peux m'en sortir. Les émotions qui se débloquent aussi, je le maîtrise pas, mais ça se débloque.
Et ça se débloque comment ?
Je commence à ressentir du stress, j'avais jamais été vraiment stressée en fait. Je commence à ressentir de la jalousie, de la tristesse beaucoup plus forte que ce que j'avais jamais ressenti. Je commence à ressentir beaucoup plus les choses, et je me dis que c'est... Enfin, à l'intérieur de moi, ça se débloque quand même. Donc, je pense aussi un peu plus forte pour créer cette volonté de me dire, en fait, maintenant, peut-être arrête de manger tes cheveux. Ce serait une bonne idée.
Et alors, est-ce que tu manges toujours tes cheveux ?
Non.
C'est vrai ?
Ouais.
Depuis combien de temps ?
J'ai arrêté le 23 octobre 2020.
Waouh, ok.
Ouais, j'adore les dates, donc j'aime bien être précise. Mais je me suis couchée le 22 octobre. Ça faisait 5-6 rendez-vous chez le psy, mais je pense que j'avais vraiment la volonté d'avancer et de, et ouais, d'avancer, en fait, tout simplement. Et du coup, je me suis couchée en me disant, ah bah demain, je vais me faire un petit défi, je vais me faire une journée sans m'arracher les cheveux.
Et t'étais convaincue
du truc,
je crois
que j'étais déterminée. Ouais. Et je me suis dit, je vais essayer un jour. Et je ne l'avais jamais fait en 11 ans, un jour. Et du coup, je me suis réveillée le matin avec cette idée. Bon, ça a été une bataille toute la journée, ça a été super dur.
Et ouais.
Mais en fait, rendu le soir, j'avais réussi. Et je me suis dit, waouh, en fait, en 11 ans, j'ai jamais réussi à faire une journée, mais maintenant, je peux pas retourner en arrière, parce que je veux pas revivre cette journée. Elle est horrible.
Ah, et tu t'es pas dit, tiens, je vais réessayer demain, voir ce que ça donne.
Bah si, du coup, si, je me suis dit ça.
Tu l'as pensé
je vais faire un deuxième jour.
Ok.
Au début, je le vivrais vraiment un jour après l'autre.
Ouais.
Donc, c'était un troisième jour, c'était un cinquième jour.
Et au final, est-ce que c'était si dur que ça ou pas?
Ouais, c'était super dur.
Putain, parce que moi, la clope, pardon, je ramène ça à ça, mais parce que pour moi, il y a un lien, tu vois. Mais moi, quand j'ai arrêté de fumer, je croyais que ça allait être méga dur. Bon, j'ai encore envie de fumer maintenant, tu vois, évidemment. Mais, enfin, évidemment, non.
Et parce
mais...
que tu t'étais mis dans la tête que ça allait être méga dur et finalement, t'as été surprise?
Bah, non, parce qu'en fait, moi, j'avais arrêté de fumer quelques semaines à l'avance parce que je m'étais fait opérer, donc j'avais pas le choix, machin. Oui. Donc j'avais déjà testé l'expérience. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas trouvé ça méga dur. C'est juste que la croyance de me dire, putain, comment je vais faire sans mon addiction? Tu vois, comment je vais faire? C'est tellement une habitude. Comment je vais faire? Et au final, bah, tu prends du poids. Non, mais tu fais autrement, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, pour toi, c'était quand même très dur.
Ah ouais, c'était super dur. Tous les jours étaient super durs. Surtout qu'il y a le geste. Donc, en fait, je prenais un cheveu. Je mettais toute la volonté du monde pour arrêter et enlever ma main avant de l'arracher.
Mmh, mais tu touchais quand même tes cheveux.
Ah oui. Et le geste est resté. D'ailleurs, ça fait du coup 3 ans que j'ai arrêté.
Ok.
Avec quelques petites rechutes.
T'as rechuté un petit peu. Ouais.
Et en fait, j'ai toujours le geste, j'ai souvent la main dans mes cheveux quand même. C'est un peu la prochaine étape, j'aimerais complètement arrêter ça, mais c'est...
Mais t'as la main dans tes cheveux, comme moi je le fais depuis tout à l'heure, tu vois, des,
non,
des trucs comme
j'ai vraiment
comme ça.
À la recherche d'un cheveu,
à la recherche...
que j'arrache pas.
Ouais. Okay.
Je suis vraiment derrière et okay. Je cherche un cheveu.
Ouais. Tu disais en début... Alors attends, oui, c'est ça que je voulais te demander, la digestion.
Ouais, bah, jamais vraiment eu de problème.
Parlons
un
caca,
peu
quoi.
Ouais, on non, peut parler
comment,
caca, mais.
Comment ça se passe?
Je sais pas, je devais faire des cacas de cheveux, j'imagine.
Non, mais t'as jamais vu de cheveux
non.
dans tes selles?
J'ai jamais fait vraiment attention.
Selles, pardon, vraiment. C'est pire que caca, quoi.
Ouais, je préfère caca que
selles. Ouais, voilà. Mm-mm. Mais t'as jamais vu de cheveux?
Bah, non, je crois pas. Bah, il devait y en avoir, mais je faisais pas attention, je pense. Parce que surtout le début, quand j'arrachais des touffes et que je, vraiment, oui. Je mangeais l'équivalent d'une perruque par semaine, je pense que.
Ouais.
À mon avis, dans l'estomac, ça devait pas être dingo.
Et dans ton ventre, enfin, visuellement, tu voyais rien, tu te sentais pas ballonné.
Non, après j'ai toujours eu une digestion vraiment nulle.
Okay.
Donc ouais. Et vraiment aussi. Mes intestins sont vraiment nuls, donc je pense que.
T'as le caca mou.
Je l'aurais juste. Non.
Non, même pas.
J'ai
merde,
le pas
putain.
De caca.
Ah, t'as le pas de caca. Ah oh, merde.
Ouais. Donc
ça,
je pense que
chiant.
J'ai rajouté une difficulté supplémentaire, mais que ça changeait ouais. pas grand chose et que c'était déjà pas fou.
Ouais. Ouais.
Podcast.
Donc tu disais en tout début d'épisode que ça a été les cheveux, mais après j'ai cru comprendre qu'il y a eu une suite.
C'est pas qu'il y a eu une suite, mais je me suis rendu compte que ça pouvait être plein de choses. Genre, j'ai pu m'arracher tous les poils du corps, je pense.
D'accord.
Ouais, j'ai pu m'arracher tous les poils du corps.
Mais quand tu dis j'ai pu, c'est à quelle période?
Je sais pas, je dirais avant mon arrêt, et ça a dû commencer, je sais pas, vers 15 ans, 16 ans.
Ok.
Ou peut-être j'ai pas trop conscientisé ça, mais je pense qu'au début, c'était que des touffes. Après, c'est devenu des cheveux, un par un. Et je pense que par période et par moment, ça pouvait être des poils.
Les sourcils?
Les sourcils, j'ai pas fait.
Les cils?
Les cils, j'ai pu faire.
Ça fait mal, ça?
Ben non.
Ah, tu sentais pas la douleur?
Non, vraiment, j'ai... Ouais, ça, c'est zéro douleur. Les poils des jambes, j'ai pu les arracher énormément.
Du pubis?
Ouais, ça a pu m'arriver.
Ok.
Les aisselles aussi.
Ah ouais, putain, tu cherches compliqué, hein.
Ouais,
t'as pas fait tes bras, les avant des bras?
Non. Après, okay. J'ai pas beaucoup de poils.
Ouais,
okay. Mais oui, je crois que j'ai pu m'arracher tous les... Beaucoup moins que peut-être 20% par rapport aux cheveux. Mais oui, tous les poils, en fait.
Et tu les mangeais aussi?
Non.
Non.
Il y a un truc, blocage.
Ça te dégoûtait?
Ouais, mais les cheveux aussi, bizarrement. Mais je l'avais intégré et le reste, non, je... Ouais, non.
Est-ce que t'as utilisé un shampoing spécial pendant longtemps pour avoir un goût particulier dans ta
non.
bouche? Je sais pas, tu sais, ça peut être...
Ouais, c'est vrai
moi,
que c'est
je
pas
sais
bête.
Qu'il y a des goûts que j'adore... Et donc, ils peuvent se rapprocher d'une odeur et donc t'as envie d'avoir un lien, tu vois.
C'est vrai. Non, je crois que le goût avait vraiment zéro importance.
Je donne des tips, c'est terrible. Je suis en train de donner des tips.
Je vais acheter un petit shampoing en rentrant, ça va être super. Non, non, ouais, le goût avait pas du tout d'importance. Non, j'ai même pas pensé à ça.
Et les poils chez les gens, ça te fait quoi?
Rien du tout.
Ok, c'est
par
pas
contre,
un
j'adore épiler à la pince à épiler.
Ouais, je comprends. Parce
donc il y a un truc de trichotillomanie en plus,
ouais.
Je pense. Okay.
Mais alors, tu sais, c'est marrant. Enfin, c'est pas si marrant, mais quand j'ai évoqué ce sujet sur Instagram, je sais plus, quelqu'un à un moment m'a écrit en me disant, mais est-ce que toi, Juliette, t'aurais pas ça avec ta peau?
Oui.
Et en fait, tu le vois là.
Oui.
Tu vois, bon, les gens ne le voient pas, mais j'ai autour de mes doigts, c'est rouge de partout.
T'arraches la peau.
Je m'arrache la peau, c'est parce que et pourtant c'est sec, donc je vais me faire les ongles et tout souvent. Et donc à chaque fois, la prothésiste angulaire me fait, faudrait vraiment hydrater madame Katz. Hein. Je fais, madame, je fais ça constamment. Tous les soirs, je mets de la crème et tout. Mais c'est qu'en fait, je m'arrache parce que je supporte pas. Donc je pense qu'il doit y avoir un lien avec la trichotillomanie.
Oui, mais ça a un nom, hein. Je crois que c'est la dermatillomanie. Quelque chose comme
ça.
Ouais, je suis désolée.
Je vais regarder après plein de choses.
J'ai pas le nom exact. Il doit y avoir toutes les lettres dans ce que j'ai dit, mais pas dans le bon ordre.
Dermatillomanie.
Ouais, quelque chose comme ça. C'est de s'arracher, justement. Ça peut être la peau du visage ou vraiment il y a des gens qui cherchent les imperfections et qui pètent toutes les choses et machin.
Un dermatillomanie. C'est terrible. C'est terrible.
Les peaux là, ça peut être la peau des lèvres.
Écoute, ah oui, la peau des lèvres, ça, je connais des gens qui font ça. En fait, c'est fou parce que on était à une petite fête foraine et je vois une grand-mère qui a des plaies, des mini plaies sur son bras, vraiment ouvertes. Hein. Et qu'en fait, je la vois gratter comme ça et j'ai envie de lui dire, ah, mais qu'est-ce que vous faites? Et je me suis dit, mais en fait, elle fait ça, tu vois. Oui. C'est un tic. Et moi, ce truc-là, c'est assez récent. Ça fait quelques années que j'ai ça.
Ouais.
Et c'est insupportable parce que déjà, ça me fait mal. Ensuite, c'est moche. C'est quand même pas très joli. Et de trois, c'est qu'en fait, moi, ça vient, je supporte pas quand il y a une imperfection.
Oui, bah c'est ça, vraiment, je crois que c'est vraiment la définition de
ce trouble-là. Ah, merde, putain, oh là là, merde, fallait pas que je t'en dise. Non, mais c'est terrible, parce que dès qu'il y a une petite peau,
aussi, hein,
tu le fais aussi.
Un peu, beaucoup moins que les cheveux, parce que je peux pas non plus tout avoir, mais...
Je peux pas tout avoir.
C'est bon, merci, j'en laisse aux autres. Mais je fais ça aussi. Les pieds aussi, j'ai pu m'arracher la peau des pieds jusqu'au sang.
Mais pourquoi on fait ça, quoi?
On est complètement con.
Non, mais en fait, je crois que c'est en effet, il y a un truc avec le stress, l'angoisse. Où moi, je sais que quand je le fais, c'est là où ça va peut-être parler aux gens, comme ce que tu as pu raconter, mais que quand je le fais, je ne pense plus qu'à ça.
Oui.
Donc ça vient presque me déstresser quelque part.
Exactement ça.
C'est une croyance, hein.
Oui.
Parce que tu déplaces le problème, mais c'est que quand j'étais dans le train, tu vois, tout à l'heure, mes écouteurs, ils n'avaient plus de batterie. Je me suis dit, putain, je vais me faire chier pendant 2 heures et tout. Donc j'ai fait un peu des trucs et tout. Et puis à un moment, je me suis concentrée sur ça. J'avais pas ça tout à l'heure. Hein.
Ah ouais, et j'avais vraiment fait ça durant le trajet.
J'ai fait dans le train.
Ok, belle performance.
Et belle perf, bien sûr. Et en fait, je regardais, je me disais, ah, putain, celui-là, je vais l'avoir. Et hop, tu sais, je l'enlève.
Ouais, et je fais pareil.
C'est terrible parce que du coup, je me focus. Donc ça me détend et en même temps, ça me stresse de ouf. Et à chaque fois, tu vois, maintenant, c'est très récent, mais je me fais poser des faux ongles. Bon, voilà. Parce que je me suis dit, justement, c'est un exercice pour moi, pour ne pas me retirer, tu sais, pour que ce soit joli. Donc, j'ai pas envie d'amochir.
Est-ce que ça marche?
Je retire les faux ongles avec mes dents au bout de 2 semaines.
À l'échec.
Non, mais c'est terrible.
Ah ouais.
Et je sais que, pareil, je me sens un peu seule là-dedans. Comme toi, t'as pu te sentir seule. Mais je sais qu'on est...
Ah, mais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est exactement la même dynamique que les cheveux ou que tous ces trucs-là.
Mais ça, c'est quand même très générationnel, j'ai l'impression. Je trouve qu'on est vachement dans une génération d'angoissés, quoi. De stresser, d'angoisser, de justement, tu vois, on commence à mettre les mots sur la charge mentale, la santé mentale. Il n'y avait pas tous ces mots-là et c'est super qu'on puisse en parler. Et justement, on dénoue beaucoup de nœuds. Et voilà. Mais en même temps, ça nous plonge encore plus dedans, quoi.
Ouais, ça nous plonge et en même temps, est-ce que ça ne nous aide pas aussi?
De ouf que ça nous aide. Mais je trouve qu'avant, il pouvait y avoir un truc où on occultait beaucoup.
Oui. Ah, bah, beaucoup plus. Beaucoup plus, c'est sûr.
Mais je trouve ça dur, en effet. Je trouve que c'est difficile de... En fait, je trouve qu'il y a presque un truc addictif, tu vois, avec la trichotillomanie, avec la dermatillomanie, avec tout ça, c'est qu'il y a de l'addiction.
Exactement, c'est
et
exactement
ça. Et qu'en fait, c'est une question toute conne, et je sais pas si... Je pense pas que tu peux me répondre, mais que j'ai l'impression qu'en fait, l'humain est addict, ou alors cherche une addiction.
Ouais.
Et qu'en fait, est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui enfin, je pense pas en connaître, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont pas addicts, tu vois, à un truc? Tu vois, ça va être la bouffe, le cul...
Non, je crois que ça n'existe pas, il y a forcément quelque chose.
Il y a un truc, quoi.
Le sucre, l'alcool, la clope... Non.
Et donc, qu'est-ce que ça vient... Ça vient répondre à quoi? Tu vois, c'est ça la question, en fait. C'est ça vient répondre à quoi comme besoin, comme croyance, comme... Enfin, tu vois, de... Mais comme ce que la psy a pu te dire, je suis en effet assez d'accord avec elle, que ça vient... C'est comme si tu cherchais à découvrir la douleur.
Mm.
Tu vois, sauf qu'en fait, t'as jamais eu vraiment mal.
Non, jamais.
Et est-ce que maintenant, t'arrives à avoir mal de... Je sais pas. T'as déjà ressenti de la douleur? Pas forcément en lien avec ça.
Ah oui, non, bah par contre, j'ai toujours ressenti la douleur autre que m'arracher les cheveux. La douleur physique, je l'ai ressentie beaucoup. Mais les cheveux, non. Et je pense que là, j'ai rechuté il n'y a pas longtemps parce qu'on traverse une période un peu compliquée. Et du coup...
Avec ta copine ?
Ouais. Et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Je pense que je suis retombée dedans pendant 2 mois.
Okay.
C'est la plus grosse période de reprise depuis que j'ai arrêté.
Okay.
Et du coup, ça faisait quand même 3 ans que j'avais arrêté.
Ouais.
Mais en fait, ça me fait toujours pas mal de m'arracher les cheveux. Ça restera toute la vie, je crois.
Là, t'es ressortie de cette période-là ?
Ouais, depuis très récemment, je m'en ressors.
Ouais.
C'est pas du tout la même intensité qu'il y a 3 ans. J'ai l'impression d'être comme un fumeur qui va refumer 2 clopes en période de stress et qui va dire « Oh, j'arrête quand je veux ».
Mais du coup, tu penses qu'à ça ?
Ça m'a un peu fait chier de retomber dedans quand même. Et
tu vis ça comme un échec, quoi ?
Ouais, un échec et en même temps... Oui, c'est quand même un échec. Mais je me dis que j'ai arrêté une première fois, donc je peux arrêter une deuxième fois, que c'est pas la même intensité, que c'était beaucoup plus dur avant. Mais ça rappelle aussi que c'est à vie, en fait.
Mais justement, pardon pour revenir à chaque fois sur ce truc de la clope, mais moi, j'ai aussi arrêté grâce à un livre, surtout grâce.
Ouais, surtout le livre grâce que tout le monde a lu, là.
Ouais, ouais, le fameux bouquin, oui. Alan Carr. Et en fait, je crois pas que c'est dans ce livre. Mais qu'en fait, tu ne deviens, quand t'es fumeur, tu ne deviens pas non-fumeur. Tu restes...
Fumeur abstinent.
Voilà, c'est ça. Ou ouais, t'es un ancien fumeur, ou je sais pas comment on dit.
Bah, c'est exactement pareil pour la trichotillomanie. Ouais. C'est on n'est pas guéri, on est abstinent. Et la preuve, c'est que j'ai été super fière d'arrêter pendant 3 ans.
Ouais.
Mais que retomber dedans pendant 2 mois, même si 2 mois, j'essaie peut-être de me rassurer, mais c'est pas grave. Mmh. Bah, en fait, ça montre que c'est quand même un combat tout le temps, quoi.
Mmh.
Et qu'à chaque période de stress, il faut vraiment le maîtriser.
Et quand t'as rechuté pendant ces 2 mois, comment tu l'as revécu ? Est-ce que tout de suite tu t'es dit « Oh, j'ai remadope ». Tu sais, j'y suis retournée, j'en avais trop besoin, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. J'étais pas bien et j'étais presque contente. Je me disais « Eh ben voilà, c'est pas grave ». Ouais, c'est quand même un plaisir, en fait. Et du coup, j'étais contente. Et en même temps, triste.
Non mais c'est fou de se dire que c'est un plaisir,
ouais,
quand même.
De manger ses cheveux, hein.
Non, mais quand tu y penses, ça n'a rien de plaisant.
Non, rien.
C'est une cachette.
Oui,
en vrai, c'est trop une cachette, quoi.
C'est clairement une cachette.
Je pense que, évidemment, c'est en lien avec ton père. Enfin,
oui.
Mais c'est peut-être en lien avec d'autres choses aussi, tu vois.
Oui, après, c'est ce que je dis, et c'est pour ça que j'aimais vraiment une grande réserve là-dessus. C'est comme cette période de ma vie, elle est floue. Je peux pas vraiment déterminer le lien de cause à effet. Je peux pas me permettre. Mais bon.
Et tu es persuadée que cette période, elle est floue? À cause du viol ?
Ouais.
Ok.
Moi, j'ai une très bonne mémoire. J'ai vraiment une très bonne mémoire, surtout des dates, des chiffres. J'adore les nombres. Mmh. Et cette période, elle est vraiment floue à tel point que je ne sais pas combien de fois c'est arrivé et quel âge j'avais exactement. Si c'était l'hiver, l'été, je ne sais pas.
T'en as parlé à ta mère ?
Non.
Oh !
C'est mon prochain to-do, avant la diffusion de cet épisode, pour pas qu'elle l'apprenne sur Instagram. Mais ouais, c'est la...
Ça te fait peur de lui en parler ?
Ouais, ça me fait peur.
Et ils sont encore ensemble ?
Non, non, ils sont séparés quand j'avais 1 an.
Ok. Parce que t'as peur de quoi ?
Bah, c'est toujours un peu pareil pour les traumas comme ça. C'est moi, j'ai eu mal, je sais que j'ai mal, mais là, je sais que je vais faire du mal aux autres parce que c'est douloureux d'apprendre ça, que je suis sa fille, et que je sais qu'il y a une partie d'elle qui va se sentir coupable. Et du coup, je repousse un peu. Ça fait peur.
Mais t'as pas peur qu'elle te croie pas ?
Non.
Okay.
Ça, j'ai pas peur du tout.
Et en même temps, ça serait hyper intéressant, mais tu vas le faire quand tu sentiras que c'est le moment. Mais ça peut être hyper intéressant de lui en parler parce que peut-être qu'elle va dénouer des nœuds aussi.
Oui, complètement.
Il y a peut-être des choses qu'elle va voir ou t'aider, tu vois, à observer.
Oui, complètement. C'est vraiment la prochaine case de ma to-do. Mais après, c'est plus compliqué maintenant que j'ai des émotions parce que avant, parler de ça, c'était complètement OK.
Ouais.
Maintenant, je sais que c'est dur pour moi et que ça me rend triste ou alors je pleure. Et du coup, c'est plus compliqué. Il faut que j'apprivoise ça. Mais
moi, je pense que, tu vois, moi, j'ai raconté un truc. Je me suis confrontée à mon père, on s'entend très bien, hein, mais je me suis confrontée à mon père il y a quelques années parce que j'ai découvert la sexualité à travers la sienne. Enfin, je l'avais écrit dans mon livre il y a très longtemps. Et en fait, c'était très compliqué pour moi de le confronter ou de me confronter, tu vois. C'était hyper dur parce que à chaque fois que je l'imaginais me confronter à lui et lui en parler, je chialais de ouf. Je me disais, mais j'arriverai pas. Et en fait, quand je l'ai fait, bah, j'ai pleuré, j'étais en PLS total, j'étais trop mal. Et en même temps, ça m'a soulagée énormément parce qu'il l'a vachement bien reçu, tu vois. Et que ça a dénoué aussi plein de choses, que j'ai entendu plein de trucs, tu vois. Donc, je pense que ça pourrait te faire du bien.
Ah oui, complètement.
Ça va peut-être en effet lui faire du mal, mais en fait, ça te concerne pas. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
c'est que c'est pas ta faute, enfin, non, tu vois, tu es pour rien, tout ça, je pense que tu le sais.
Ah bah oui, mais grâce à un super podcast d'ailleurs, ah ouais. ouais, qui m'a beaucoup aidée.
C'est lequel ?
Qui s'appelle Ou peut-être une nuit.
Ah, je connais pas ça.
Il y a 6 épisodes et ça parle de l'inceste.
Ok.
Et ça m'a vraiment sauvée sur plein de choses. Okay. Et du coup, je le sais très bien que c'est pas de ma faute, c'est plus mon ressort, mais ça reste quand même compliqué, c'est ma mère. Là, j'en ai parlé récemment à ma grand-mère, la mère de mon père, et... exactement pareil que toi, j'ai pleuré mais... et en fait c'était pas grave, c'est le fond qui est important, c'est pas la forme.
Et comment elle l'a reçu ?
Tristesse absolue, ça l'a renvoyé à sa propre histoire parce que ça lui est arrivé aussi.
Ouais.
Et enfin surprise, elle était vraiment voilà, mais aucune remise en question et beaucoup d'amour, donc aucun problème.
Et ta mère, pour la tricotillomanie maintenant, pourquoi ils ont choisi un mot si compliqué, franchement, c'est hyper long. La tricot.
C'est vraiment moche.
Bah, on a l'impression que tu fais du tricot.
Oui, c'est vrai.
Donc non. Est-ce que ta mère, tu lui en as parlé un peu plus en profondeur ?
Je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé en profondeur. Après, quand j'étais adolescente, on était proches sans être proches. On est beaucoup plus proches maintenant. Et du coup, avant, je ne lui en parlais pas. Mais par exemple, quand j'ai arrêté, j'étais tellement fière qu'elle le savait. Et du coup, je pense qu'elle a pris conscience que c'était important pour moi. Et du coup, bah. Je m'offre un cadeau chaque année pour fêter mes 1 an, mes 2 ans et mes 3 ans. Du coup, à chaque fois, je lui disais. Et à chaque fois, elle est très contente. Donc voilà, mais on n'en a jamais vraiment parlé en profondeur.
Oui, elle est très contente, mais elle ne vient pas questionner des choses.
Non.
Elle te dit juste, ah bah c'est super chérie.
Oui.
Elle va pas aller questionner le comment ça se fait que tu as commencé à faire ça.
Jamais.
Peut-être qu'elle n'est pas comme ça de base aussi.
Je crois qu'elle n'est pas trop comme ça. Et que pareil, je crois qu'elle l'a intégré, c'était comme ça. Ça s'est arrêté. Et du coup, elle n'a pas envie de poser de questions plus que ça, je pense.
T'as rencontré des gens qui sont tricotillomanes ?
Ah ouais, tricotillomanes, peut-être que ça se dit.
Oui, bah oui, ouais. Je pense. Je suis tricotillomane.
Oui, oui, et non, il y avait une amie au lycée, j'ai plus de nouvelles d'ailleurs, mais qui s'arrachait les cheveux aussi. Mais je crois qu'on en parlait sans en parler, donc je sais pas l'ampleur du trouble, mais quand même, je pense qu'il y avait un gros fond de tricotillomanie. Mais sinon, c'est tout.
T'aimerais bien rencontrer des gens ? En tout cas, parler, avoir un petit groupe de...
Ouais, franchement, c'est... Ouais. Je pense que ça peut être intéressant, surtout sur des gens qui n'ont pas encore arrêté. Et puis, je crois que chaque histoire est complètement différente. Ça peut venir d'un trauma, mais ça peut venir de rien. Ouais, ça serait super intéressant d'en parler avec des gens, par exemple, où ça fait des années qu'ils ont arrêté, des gens qui n'ont pas encore essayé d'arrêter.
Ce qui serait bien, je le place comme ça. Faut pas que j'oublie, parce que j'oublie plein de trucs. Je compte sur Julien et sur Maud pour... Enfin, mon équipe pour me le rappeler. J'ai un Discord. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est un Discord, mais c'est un genre de WhatsApp,
oui,
on va dire.
Je vois.
Et je me dis que ça pourrait être pas mal de créer un petit salon tricotillomane et comme ça d'inviter les gens à, s'ils le sont, oui, c'est ça, ouais.
Oui.
S'ils l'ont fait, s'ils ont arrêté, de rejoindre ce groupe et peut-être de...
Ouais, hyper intéressant. Surtout qu'apparemment, il y a eu beaucoup de formulaires et...
Ouais, il y en a eu beaucoup.
Du
hein.
coup,
ouais.
Ouais, hyper intéressant.
Ouais, ça pourrait être bien que je mette ça en place. Comme ça, il y a une petite safe place, même. Enfin, safe place, oh, j'aime pas ce mot. Mais de 10-15 personnes, tu vois. Enfin, je sais pas combien de personnes, mais d'avoir un petit groupe comme ça où vous êtes ensemble.
Podcast.
Comment t'imagines un peu là, la suite pour toi en lien avec toi ?
Alors, déjà, là, je vais bosser sur moi-même, sur mes to-do, ma mère, le viol, réarrêter complètement, bosser ce mouvement aussi que j'ai et que. Demain dans les cheveux, que là j'ai pas trop fait, mais voilà.
Mais pourquoi tu veux pas revoir un psy ?
Exactement, c'est vraiment la prochaine étape.
Franchement, ça pourrait être trop bien.
Oui, oui, je vais vraiment y retourner.
Elle ou une autre, tu vois,
oui,
mais
oui.
Si c'est elle parce que t'as senti le truc, franchement, faut y aller. Puis c'est pas grave, elle te jugera pas si t'y retournes quelques années après. Moi, je l'encourage à chaque fois que je fais des podcasts aux gens parce que c'est.
Mais t'as vraiment raison. On se rend pas compte de l'impact et de l'importance de.
Je trouve que c'est l'un des trucs, moi, qui m'a pas sauvé la vie, je dirais pas ça, mais.
Ouais, mais quand même, ça aide bien et ça.
Parce que d'être seule, en fait, c'est vachement bien parce que tu t'écoutes et t'es machin. Mais d'avoir quelqu'un où c'est son métier, qui n'est pas dans le jugement, qui ne te connaît pas, je trouve qu'il y a un regard qui est un peu différent.
Ah oui, complètement différent et super utile.
De ouf.
Ouais.
Oui, donc en tout cas, voilà, peut-être aller travailler, faire tes to-do.
Oui.
Ok.
Cocher mes to-do et. Ouais.
Et comprendre ce geste.
Ouais, et l'arrêter surtout.
Ouais.
Même si on reste abstinent, être le. La plus abstinente possible. Ça serait super.
Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai trouvé ça trop, trop intéressant de parler de tout ça. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, au-delà de la tricotillomanie en soi, mais de ce rapport addictif à quelque chose, d'avoir un terrain où on croit que ça vient, enfin, tu vois, Une cachette, moi j'aime bien ce mot, la cachette,
ouais, cachette
je trouve
bien.
Que c'est un bon truc. En tout cas, merci beaucoup d'en avoir parlé comme ça, si ouvertement et en étant complètement décomplexée, je trouve ça trop cool parce que t'as, à aucun moment t'as eu une once de honte et je trouve ça trop bien.
Je l'ai eu pendant 11 ans, donc je me suis dit que non, mais, aujourd'hui ouais. c'était pas utile de l'avoir.
Franchement, et du coup ça rend le sujet encore plus accessible.
Ouais, et... c'est vraiment ce que j'aimerais justement, que le sujet soit accessible.
Ouais.
Qu'il n'y ait pas juste des articles ou des documentaires un peu dramatiques.
La tricotylomanie.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, un truc
Sandra,
un peu.
Ouais. Chauve, bon, ça va.
Ouais,
on peut peut-être faire autrement, quoi.
Ouais, t'as raison. Ouais. Non, mais c'est bien. Et je trouve que ce serait hyper intéressant de décomplexer plein de sujets, tu vois, mais de dire...
Bah oui.
En fait, voilà, j'ai fait ça, je l'ai mangé, et so what, tu vas faire quoi, mon
oui,
gars?
Oui, exactement. Ouais.
Ouais. Je trouve ça trop cool.
C'est
enfin, trop cool.
Oui.
T'as compris de quoi je voulais parler. Merci beaucoup en tout cas. Emma.
Bah merci.
Vraiment,
merci à toi de m'avoir invité.
C'était trop cool. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé. Je sais pas si on peut vous mettre dans la description le lien du Discord. En tout cas, je le ferai en story sur Instagram pour essayer de créer ce petit salon pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast, que vous pouvez mettre des petites étoiles, des petits commentaires sur Apple Podcasts, sur Spotify, tout ça, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Insta, sur Twitch, parce que j'ai repris les lives sur Twitch et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast. Podcast.